Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré.
Je me suis procuré, il y a quelques années, comme cadeau de Saint-Valentin, de moi à moi, ce coffret de lettres d'amour, 1000 mots d'amour, qui soutenait l'œuvre essentielle de l'organisme Les Impatients, qui aide les gens aux prises avec des enjeux de santé mentale par le biais notamment d'ateliers de créativité. Et nous avons, j'étais en fait impatiente de recevoir le directeur général Frédéric Palardy. Bonjour Frédéric.
Bonjour Madame Doré. Doré qu'on dit. Hein?
Oui. Ah, vous avez une voix de radio.
J'adore les cadeaux de moi à moi.
C'était un magnifique projet. Je crois pas que ça revient cette année. Hein. Je pense que c'est d'autres activités de financement cette année.
Oui, en fait, les coffrets, on en a fait une dizaine. Et dans le contexte actuel, des impatients, mais aussi de la vente de livres.
Oui.
Le contexte est un peu plus difficile, donc on saute au moins une année, c'est certain.
Oui. Ceci dit, il y a toutes sortes d'activités de financement, on en parlera plus tard, mais je veux vraiment comme voir un peu comment... Ce parcours-là, parce que j'étais impressionnée de voir les débuts modestes de l'organisme et de voir qu'aujourd'hui, vous êtes présent dans 29 points de service.
Oui.
C'est une belle progression. Donc, racontez-nous un peu le parcours là, des impatients.
D'abord, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, les impatients, on vient en aide aux gens qui ont des problématiques en santé mentale.
Mm-hmm.
Qu'on fait, c'est des ateliers de création artistique. On a, comme, effectivement, comme vous dites, on a eu un début très modeste. Il y a 30 ans de cela, à l'hôpital qu'on appelait Louis H. Lafontaine à l'époque, et qui maintenant est l'Institut en santé mentale universitaire de Montréal. Ma mère, qui est la fondatrice des impatients, donc il y a 30 ans.
Ah oui, quelle belle... Donc Lorraine.
Exactement. Oui, Lorraine, je m'avais dit pour les intimes, mais pour les intimes...
Vous, c'est peut-être maman ou...
De façon très, très large.
Oui.
A eu l'idée géniale, et pour mettre à l'époque, de faire un atelier créatif à l'hôpital avec des patients. Et à cette époque-là, des patients qui avaient des cas très lourds, là, schizophrénie, bipolarité, donc qui vivaient sur place. Et elle a fait un atelier sporadique d'une durée de 2 semaines. Et après ça, ils ont ramassé leur truc, comme on dit. Et ils sont retournés à leur vie. Il y a une adjointe, une secrétaire à l'époque, qui a appelé ma mère et qui a dit « Ils font la file devant l'atelier. »
Ah oui!
Oui.
Elle avait vraiment semé quelque chose.
Définitivement. Elle a décidé, à ce moment-là, ma mère avait une galerie d'art et un fait marquant là, pour l'époque également, c'était la première femme qui était la directrice de l'Association des galeries d'art contemporaines de Montréal. Donc, elle a décidé de partir les impatients dans un modeste local à Pointe-aux-Trembles. Eh bien, 30 années plus tard, moi, j'ai pris la relève il y a 11 ans. Et 30 ans plus tard, on est présent dans 29 ou 37. Là, vous avez dit 29, mais ça bouge. On donne des ateliers, donc de Shawinigan à Mont-Laurier, en passant par toute la rive sud, en Estrie, à Laval, un peu partout, à travers le Québec. Et donc, on offre des ateliers à plus de 950 personnes par semaine.
Wow!
Oui, on commence à être présent.
Et qui est à la... Qui, en fait, anime ces ateliers?
En fait, ce sont les artistes qui animent les ateliers. L'important de noter, c'est que on fait pas on n'est pas ésotérique du tout, là. On est vraiment associé avec...
Ésotérique? Est-ce qu'on vous a déjà reproché ça?
Je dirais qu'au début, des ateliers d'art avec les gens qui ont des problèmes de santé mentale, on aurait peut-être tendance à croire que ça peut être un peu un passe-temps, disons. Mais On fait vraiment partie du rétablissement en termes de santé, c'est-à-dire qu'on est affilié avec les hôpitaux psychiatriques à travers le Québec. Mm. Ce sont eux qui paient pour les services. Nous, on offre, quand on dit qu'on a 30 sites, des sites avec un espèce de tout inclus, on appelle ça une franchise sociale. Mm. Ils paient pour nos services, on fournit l'artiste, les matériaux, on trouve le site, toujours le plus beau site, c'est aussi très important.
Mais j'imagine, hein, parce que l'art, c'est le où on le fait aussi. La beauté, c'est large, mais c'est aussi dans quelles conditions on exerce les ateliers. C'est une belle nuance que vous apportez.
Oui, ça, ma mère naît, oui, encore beaucoup. Je donne toujours le même exemple. Pourquoi on décore chez nous? Pourquoi on met de l'argent chez nous? Mm. C'est pour se sentir bien. Mm. Alors, le site est très, très important. La façon dont on traite ce qu'ils font aussi, je reviens au fait que ce sont des artistes, la plupart des artistes professionnels de haut niveau qui donnent les ateliers. Donc, c'est vraiment la création qui fait le job. On n'est pas... c'est pas de l'art-thérapie, mais bien de l'art-thérapeutique. On vient pas sur l'œuvre. C'est de la pure création.
Quelle est la différence, Frédéric Palardy, entre des ateliers d'art-thérapie et d'art-thérapeutique?
Ben, en art-thérapie, on va... souvent, ça va être en groupe. Et on va analyser l'œuvre qu'on fait. Mm. On va revenir sur l'œuvre, revenir sur les émotions. Ça fonctionne, c'est prouvé ça aussi. Mais nous, on a choisi de faire plus l'art thérapeutique qui, lui, bien, le bien-être se retrouve dans le fait de créer.
Oui.
Bon, de se rassembler également, là, on brise l'isolement et tout, là. Mais le bien-être passe par la création.
Donc, ce n'est pas, tandis que dans l'art thérapie, on se sert de l'art pour parler des émotions, tandis que là, on est vraiment dans la création. On met vraiment la création artistique à l'avant-plan.
À l'avant-plan. Et après, on a, en plus que ça, c'est qu'on traite la création comme une vraie création. Mm. Vous avez passé, on a une des plus grandes, sinon la plus grande collection d'œuvres d'art hors normes en Amérique du Nord. Donc, le participant crée et il choisit, il peut ramener son œuvre, peut conserver son œuvre, mais il peut aussi la donner à la collection des impatients et il y a un comité de sélection. On a même des œuvres qui sont à Lausanne, on a fait des expositions à Paris et à New York.
Wow, bravo! Et on peut, je crois, participer à peut-être vouloir acquérir. Ça, c'est une de vos activités de financement, je crois, l'expo en camp.
Oui. D'ailleurs, il y en a une qui commence parce qu'on en a plusieurs à travers le Québec. Mm-hmm. Il y a la principale à Montréal à tous les automnes. Mais il y en a une qui commence à Repentigny dans la magnifique salle au Centre d'art Diane Dufresne. Et ça commence la semaine prochaine, en fait. Le 23 février.
Est-ce que Diane a déjà été parmi vos artistes?
Oui.
Oui? Wow!
Donc, pour revenir sur Parlons de l'amour, donc c'est un encan qui regroupe des œuvres faites en atelier à Repentigny. L'atelier est justement dans le Centre des arts. Pour ceux qui savent c'est quoi le Centre des arts, c'est un magnifique Centre des arts. Donc, à Repentigny, l'expo a lieu là, combiné à une exposition de la collection des impatients, ce qui est magnifique, et combiné également avec une exposition du Centre des arts. Donc, c'est un espèce de 3-pour-1 du 23 février au 12 mars, je crois.
Excellent. Le message est passé à nos auditeurs et j'irai peut-être vous visiter. Je trouve votre œuvre vraiment remarquable. Qu'est-ce que l'art... comment l'art contribue à ce rétablissement, Frédéric?
Bien, de plusieurs façons. La première, il ne faut pas se mentir, c'est qu'on crée des ateliers où on est bien. Mm. On crée des ateliers où on favorise justement cette création-là. Et je fais souvent l'analogie, moi, je suis un créateur, mais pas artistique, mais j'ai un potager. Alors, mon potager, c'est mon lieu où je me sens bien. Je me sens dans ma zone. Je le planifie des mois à l'avance. J'aime jouer dans la terre. Donc, une espèce de d'havre de paix. Et quand on crée, ben c'est là où notre cerveau nous amène, puis on se sent un peu à l'abri de tout.
C'est beau, ça.
Et après, on est fiers de ce qu'on fait quand on le montre. Donc, je prends nos ateliers, par exemple, à la DPJ, parce qu'on fait aussi des ateliers avec les jeunes. Si on fait des expositions et que les œuvres sont au mur et qu'ils montrent ça à leurs parents,
il y a une fierté.
Avec qui souvent ont des difficultés. Là, ils sont fiers d'eux autres. Ils sont plus fiers de leur mauvais coup. Ils sont fiers de la création qu'ils ont faite.
Est-ce que ces ateliers comme ça en centre jeunesse, c'est l'un des 29 points de service?
Oui. C'est devenu une grande partie des impatients. C'est diversifié beaucoup. Je parlais tantôt des cas graves, là, ou lourds plutôt, au début. Maintenant, ben avec la pandémie, mais même pré-pandémie, les problématiques de santé mentale sont tellement larges que on en fait un peu pour tout. On a de la musique, on a des bandes dessinées, on a une bande, on a une chorale, on fait des ateliers pour les jeunes à la DPJ, hors DPJ, avec les militaires, post-traumatiques, oncopsychiatrie, femmes en difficulté, donc tout ce qui peut aider là, à se sentir un peu moins angoissé et anxieux.
Avez-vous des ateliers pour la trompe-anxiété?
Ben, c'est ce que je m'en dis. À peu près tout le monde en a besoin. Ouais. Que ce soit la trompe-anxiété, l'anxiété de performance, les jeunes qui est terrible, l'anxiété environnementale, l'anxiété de la vie, point. Donc, on est dans la bonne business, malheureusement.
Oui, j'allais vous dire, vous ne manquerez pas de travail pour les prochaines années.
Non, malheureusement, là, on est un peu victime des coupures dans le domaine de la santé.
Oui.
On n'est pas les seuls, on n'est pas les pires, mais ça complique, disons, notre tâche. On continue à développer le plus qu'on peut, mais ça nous freine, disons.
Vous dites les coupures dans le domaine de la santé. De votre côté, ou malheureusement, c'est que globalement, ça contribue à faire en sorte à vous amener de nouveaux impatients?
Bien, en fait, c'est des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a des hôpitaux qui n'ont pas le choix, qui ont dû couper.
Mettre fin à leur association, aux ateliers.
Exactement. Donc, mettre fin avec certains, pas les sites, pour le moment, on n'a pas perdu des sites, mais ce qu'on a perdu, c'est des séances d'atelier, donc on coupe dans les séances. Ensuite, nous, on a dû couper dans certains sites parce qu'on a des pertes de budget. Et l'autre problème que ça entraîne, c'est que comme ils sont en coupure budgétaire, mais le développement, c'est pas la première chose qu'ils veulent faire.
Et est-ce que, outre les hôpitaux, est-ce que vous êtes, le financement des activités, est-ce que vous bénéficiez de subventions au niveau de la culture?
Oui, la culture nous aide, mais vous savez,
C'est encore un domaine où, récemment, à Tout le monde en parle, dimanche dernier, on parlait des coupures dans le domaine de l'art et de la culture là, qui se font sentir partout.
Exactement. Donc, à ce niveau... Donc, au niveau gouvernemental, les prochaines années s'annoncent très difficiles. C'est pour ça si on survit aux impatients, c'est parce que notre financement est assez diversifié. Je vous parle de mes ateliers, bon, c'est une portion du financement, mais on a des activités de financement comme les parlements d'amour. On se tourne vers le privé également. On est, disons, il y a même un bingo qui redonne des fonds aux impatients. Donc, on est assez diversifié et assez imaginatif.
Frédéric Palardy, je vous propose une petite pause et on continue à parler de votre imagination là, pour continuer votre œuvre.
Avec plaisir.
poursuivons notre entretien au Héros anonyme avec Frédéric Palardy, directeur général des Impatients, quelques décennies après sa mère, Lorraine, qui a fondé l'organisme. Je trouve ça très beau, Frédéric, ce parcours. J'imagine que votre mère a eu une grande influence dans votre envie de redonner, parce que je regarde votre parcours, vous êtes avocat de formation, vous avez travaillé aussi en milieu corporatif. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez été appelé à vouloir devenir directeur général?
Oh, l'histoire est assez longue, mais je fais le
départ. On peut prendre quelques minutes.
Oui, comme vous avez dit, je suis avocat. Ensuite, j'ai travaillé pour une grande entreprise. Et à ce moment-là, l'entreprise, j'ai eu, comment dirais-je, je travaillais pour le grand boss et le grand boss s'est fait licencier. Et quand le grand boss s'est fait licencier, ses proches collaborateurs, voilà le monde de la business, et c'est bien correct. J'ai pris une pause de réflexion et à ce moment-là, ma mère, les impatients prenaient beaucoup d'ampleur. Et il y a quelqu'un qui m'a approché et il m'a dit « Mais pourquoi tu prends pas la relève? » J'ai sauté dedans. Ce qui est un peu étonnant, c'est que j'ai des parcours. Moi, j'ai un parcours pris les impatients. J'avais travaillé 6 ans comme avocat à Montréal, 6 ans à l'ONU et 6 ans en entreprise. Et là, j'avais des 6 ans. Et là, aujourd'hui, je suis rendu à 11 ans avec les impatients. Ça doit être signe que...
Bien, il y a quelques-uns de nos héros anonymes au fil des semaines là, qui sont justement des gens qui ont fait de gros changements de parcours professionnel et tous nous disent qu'ils sont très heureux d'avoir fait ce changement, même si dans certains cas, ça amène des pertes de revenus, mais qu'ils sont payés autrement.
Oui, définitivement. Je viens contre l'entreprise privée, mais... en faire de la vente et offrir des ateliers de création à des gens en difficulté, je peux vous dire que c'est beaucoup plus enrichissant.
Ceci dit, j'imagine que votre parcours d'apprendre à faire de la représentation au niveau de tout ce qui implique aussi le milieu corporatif, le droit, ça vous amène des compétences qui aujourd'hui, en tant que directeur général, doivent aider les impatients à se développer, puis à avoir des plans d'avenir qui sont solides?
Oui, on parlait du financement tantôt, on parlait des franchises, le droit, c'est toujours pratique dans tout. Oui, définitivement que j'utilise mon parcours du mieux que je peux pour... favoriser et faire en sorte que les impatients soient pérennes. Mais il ne faut jamais sous-estimer, c'est tellement un travail d'équipe.
Oui. Vous êtes combien l'équipe d'ailleurs aux impatients? Combien d'employés et bénévoles?
Bien, à la base, il y a nos artistes, là, près de 45 artistes, je crois. On doit être proche de 50 même, qui sont à la base de tout, parce qu'ils sont pour le terrain. Et ensuite, on met près de 15 à l'administration pour faire rouler cette business. Donc, ça commence à être une vraie business.
et dites-moi, on parlait juste avant la pause là, d'être innovateur dans le financement. Si vous aviez à donner des conseils justement aux gens qui œuvrent dans des OSBL, parce qu'on en entend beaucoup ici au Héros anonyme et à peu près tout le monde a ces doléances-là au niveau du financement. Et j'ai l'impression que vous avez su trouver des façons de faire différentes qui peuvent être inspirantes.
Bien, le premier conseil que je donne toujours, là, je me rapprochais des fois par des jeunes, plus jeunes en tout cas que moi, essayer de diversifier. Beaucoup sont dépendants ou du gouvernement ou d'un donateur. Donc, le plus possible et d'être indépendant. Moi, j'ai toujours tenu beaucoup à mon indépendance. Donc, et commencer par oui.
Commencer par oui?
Oui, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous approche avec une idée folle, pour que ce soit un encan, que ce soit une vente, que ce soit pour un événement. Commencer par des oui.
Ah,
ça, pas d'allure, on ne le sait pas. Mais, vous voyez, créatif, puis mais quand on commence par oui, ça mène loin des fois.
Donc, je comprends que vous êtes créatif dans le produit que vous offrez, mais aussi dans vos façons de faire.
Ben, il faut, hein.
C'est cohérent.
Oui, puis on fait quand même de l'art, donc on fait de la création. J'ai la chance, encore une fois, de travailler avec plusieurs artistes. Ça aide à être créatif, justement, que ce soit au niveau du financement, au niveau des événements. Vous savez, c'est un peu dans l'historique des impatients. Là. Il y a une tour, pour ceux qui connaissent bien Montréal, là, il y a une grande tour en face de l'hôpital Louis-H.-Lafontaine, la tour Nidigan qu'on appelle, il y a peut-être 25 ans. Moi, je n'étais pas là, mais ma mère, ils l'ont illuminé, je crois, c'était 30 000 lumières. Bien avant le sapin de Saint-Denis.
Oui, c'est ça je pensais, justement. C'est ça je pensais.
Oui. Ouais. On fait des encans d'œuvres faites par des mélangés, donc, avec des artistes professionnels et des participants. Et aujourd'hui, il doit y avoir 25 organismes qui font la même chose. Ma mère dit toujours, si on est copié, c'est parce qu'on est bon.
Oui, c'est effectivement un bon signe. Vous avez nommé être indépendant. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Bien, pas dépendre, par exemple, d'un donateur. Dépendre seulement du gouvernement. Qui peuvent, à un moment ou à un autre, prendre un peu le contrôle parce que si ce donateur-là décide qu'on doit aller là, mais que ça va contre vos valeurs, bien, vous n'avez pas beaucoup de choix.
Oui, donc ça vient de pair avec se diversifier, ça limite justement notre dépendance. Je pense que c'est, en tout cas, sans vouloir aller dans la politique, puis la Trump-anxiété, j'ai l'impression que c'est des sujets qui sont beaucoup à l'ordre du jour, là, la diversification ces temps-ci.
Oui, effectivement, puis aussi dans le mode de fonctionnement, quand je disais commencer par oui.
Oui.
Vous avez quelqu'un toujours en haut de vous qui vous dit « fais attention à ci, fais attention à ça ». C'est difficile d'être créatif.
Ah, vous avez tellement raison.
On le voit au gouvernement, on le voit à beaucoup de niveaux dans les grandes entreprises. Moi, je suis affaire avec des grandes entreprises. Avant d'avoir un oui sur un truc aussi banal qu'un communiqué de presse, des fois, c'est long.
Oui, oui. Absolument. Je trouve ça bien aussi comment vous avez nommé vos valeurs. Parce que souvent, quand on voit des valeurs organisationnelles ou des valeurs d'organisme, c'est un mot. Et j'aime que vous faites une combinaison. La liberté dans la création, le courage dans l'action, la passion à travers l'art. Il y a vraiment une manière de nommer vos valeurs aussi qui est à la fois originale, mais porteuse. Comment vous en êtes venu à dire c'est comme ça qu'on a envie d'exprimer nos valeurs?
Ça vient beaucoup de Robert de Thune. Robert de Thune est l'ancien président de Rona, qui a de très grandes valeurs et qui a su les conserver malgré le fait qu'il travaillait un business pur. Et pour lui, c'est très important, justement, il faut toujours que ce soit des valeurs actives et non des valeurs passives.
Oui.
Donc, pour que ce soit actif, pour qu'il y ait du mouvement, bien, s'il y a du mouvement, ça commence dans les valeurs.
Et Frédéric, je ne voudrais pas passer sous silence. Là, je sais que vous avez eu une vie qui a développé des capacités très grandes, mais vous avez été challengé en 2023. Je pense qu'il y a eu... Les impatients ont été victimes d'un incendie.
Oui, majeur. En fait, de ces temps-ci, je dis qu'on a eu la pandémie. Vous êtes impatients parce que ça aussi, ça a mis des freins énormes là, avec nos participations avec les hôpitaux et tout le reste. On a eu l'incendie, donc, à la maison mère où c'était au monastère. Au monastère du Bon Pasteur. Mm-hmm. Donc, il a fallu tout recommencer. Et là, on est en train de se relocaliser. Et cette année, bien, on a les coupures de 1,5 milliard. Donc, on est résilient comme nos participants.
C'est exactement le lien que j'allais faire. Je sens beaucoup de cohésion, Frédéric, dans ce que vous nous expliquez.
Mais nos participants, vous savez, se lever tous les jours là, pour venir à l'atelier. Il faut être très résilient quand la vie te porte des coups durs. Ils sont très inspirants, alors.
Merci d'être avec eux pour les aider à se rétablir. Donc, si on a envie d'aider les impatients, on va sur votre site Internet?
Sur le site Internet, venez nous voir à Repentigny et venez nous voir bientôt, là, au mois de mai, on va avoir un site, un hub, comme je l'appelle, un hub extraordinaire dédié à la santé mentale. Ça va être magnifique.
Mais on en prend bonne note et je rappelle l'Expo en camp, Parlez-moi d'amour à Repentigny du 23 février au 12 mars. Merci beaucoup, Frédéric.
Un dernier mot en ce jour de la Saint-Valentin.
Oui, allez-y.
Joyeux Saint-Valentin à tous. Et surveillez les panneaux sur l'autoroute. Il y a 35 panneaux, des immenses panneaux autoroutiers financés par Auto-Québec. Et c'est écrit « Parle-moi d'amour » en cette belle journée.
Bien, merci de nous avoir dit oui, justement, Frédéric.
Merci beaucoup.
Bonne Saint-Valentin et bon succès aux impatients.
Merci de m'avoir invité.
Merci beaucoup. Je note également pour notre premier organisme, le Centre d'entraide Racine Lavoie, qui a un yogathon le 6 avril à Saint-Eustache. Et moi, je donne tout plein d'amour à notre équipe. Catherine Bourdoron à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, Chantal Doré au micro. Je fais cette émission avec beaucoup d'amour. J'espère beaucoup que ça vous inspire à aider nos organismes, que ce soit par du temps, par de l'argent ou tout simplement pour vous inspirer à être encore plus créatif dans vos propres milieux. Je vous invite à nous écouter nos autres épisodes sur canalm.vuesetvoix.com. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se dit à très bientôt.